Bonjour. Pour les trois cours qui nous restent encore, je voudrais prendre, parce que les questions m'ont demandé que je fasse un peu le point entre nos relations avec les écrits d'Israël et avec Israël lui-même, avec les Juifs. Je vais reprendre plusieurs choses qui sont dans le syllabus, mais peut-être pas exactement dans l'ordre. Mais j'aimerais bien me fixer aujourd'hui sur une annexe que j'ai faite la dernière fois, mais sur laquelle je vous donnerai quelques indications, parce qu'il y a quelques fautes, et fautes d'orthographe, et même fautes de citation. Mais j'aimerais bien prendre un peu comme base le document de la Commission biblique pontificale, que vous connaissez sans doute, que je suppose beaucoup d'étudiants réguliers, en tout cas, ont lu, « Le peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne ». Ce document est important. Il a été publié en 2001, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Il a été publié en 2001. Et il met ensemble beaucoup de choses très importantes concernant notre lecture de l'écriture, l'importance de l'écriture, non pas seulement l'écriture telle qu'elle est dans notre Bible, mais l'interprétation scripturaire du judaïsme et la manière dont cette interprétation s'est développée dans le judaïsme parallèlement à l'interprétation chrétienne. Il y a souvent beaucoup de malentendus sur les choses. Donc sur deux points en particulier, le premier point, c'est comment l'écriture du Nouveau Testament parle-t-elle des Juifs et comment devons-nous interpréter cela? Et deuxièmement, quelle importance le judaïsme a-t-il dans son développement actuel pour notre interprétation chrétienne et nos relations avec les Juifs? Je commence par prendre un texte que vous connaissez bien, que vous avez souvent entendu, mais qui n'est pas toujours bien compris non plus. C'est le chapitre 23e de l'évangile de Saint Matthieu. Nous le lisons souvent d'une certaine manière, mais est-ce que c'est bien ainsi que nous devons le lire? Donc c'est au chapitre 23e de l'évangile de Saint Matthieu. L'évangile de Saint Matthieu commence, après l'évangile de l'enfance, par le discours de Jésus sur la montagne. Bienheureux, bienheureux, bienheureux par 8 fois. Et l'évangile se termine avant la Passion, par ce chapitre 23e, où nous avons malheureux, malheureux, malheureux. Ainsi Jésus s'adressa, je vous lis simplement le début de ce chapitre 23e, alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Nous sommes présents et dans les foules et dans les disciples. Alors, les scribes et les pharisiens siègent dans la chaire de Moïse, ce que nous appelons aujourd'hui dans nos églises la chaire de vérité. Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux, etc. Ils les mettent, et vous connaissez bien, hein, toute cette nomenclature de défauts, et puis c'est malheureux, malheureux, malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous qui parcourez mer et continent pour gagner un seul prosélyte, et quand il l'est devenu, vous le rendez digne de la géhenne. Deux fois plus que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on jure par le sanctuaire, cela ne compte pas, mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, on est tenu. Insensé et aveugle, qu'est-ce donc qui l'emporte, l'or ou le sanctuaire qui a rendu sacré cet or? Vous dites encore, si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si l'on juge par l'offrande placée dessus, on est tenu. Aveugle. Qu'est-ce donc qui l'emporte, l'offrande ou l'autel qui rend sacrée cette offrande? Etc. Alors nous lisons cela de façon très tranquille, en pensant aux pharisiens de l'époque de Jésus, et nous leur laissons tout le poids de cette responsabilité. Est-ce que c'est ainsi que nous devons lire cet évangile? Et pourquoi le prend-on encore à la messe? Alors, dans les quatre pages qui ont été ajoutées à la première édition du syllabus, les quatre pages donc, qui sont juste avant les documents, ont été mises à ce moment-là, qui devraient être un peu plus tôt, mais peu importe, les Juifs dans le Nouveau Testament. Je vous lis les premières lignes. Souvent, la catéchèse s'est bornée à reprendre sans critique les caricatures que la tradition chrétienne a imaginativement tirées des évangiles. Attention, ce ne sont pas les évangiles qui se trompent, c'est notre manière de les lire souvent. On caractérise les pharisiens comme suffisants, méprisants, formalistes ou légalistes, ce qui vaut davantage des sadducéens que des pharisiens, étroits d'esprit, fanatiques, nationalistes, cupides, orgueilleux, ambitieux. Cela répond-il à la réalité? Une enquête historique semble prouver le contraire. Alors je vais vous citer Deux exemples importants. D'abord, le père Xavier Léon Dufour. Et donc, il dit ceci, je vous dis, dans le dictionnaire du Nouveau Testament, « À travers la systématisation des évangiles, on reconnaît que Jésus a condamné, non pas le pharisianisme, mais le pharisaïsme. » Ce n'est pas la même chose. Le pharisianisme, c'est l'appartenance au courant des pharisiens, qui est une appartenance qui a continué dans l'Église à se propager. Il y a du pharisianisme dans l'Église. Mais le pharisaïsme, c'est une manière de percevoir précisément ce qu'est une manière d'interpréter la Torah. Pharisianisme est une appartenance à un groupe religieux, tandis que pharisaïsme, c'est une réalité qui existe partout, et dans l'Église et ailleurs. Et justement, elle correspond à cette épithète que donne Jésus, hypocrite. Ils disent et ne font pas. Et ce pharisaïsme-là, n'est pas seulement propre à Israël, il est propre à toute attitude religieuse, y compris le chrétien. Je traduis souvent, scribes et pharisiens hypocrites, mais je traduis par exégètes et théologiens. Cela s'adresse aux chrétiens. Et ça, c'est important. Donc, à travers la systématisation des évangiles, bien sûr, on reconnaît que Jésus a condamné non pas le pharisianisme, l'appartenance, mais le pharisaïsme, le mode d'interprétation. C'est-à-dire le danger permanent qui menace tout esprit religieux lorsqu'il lie sa quête de Dieu à une pratique de la loi. Et le jansénisme est un pharisaïsme. D'ailleurs, il y eut des pharisiens non seulement pour inviter Jésus à leur table, mais aussi pour prendre son parti, Nicodème par exemple, soit en le défendant contre Hérode, soit en embrassant la foi chrétienne. Maintenant, je passe à un autre texte qui se trouve dans le syllabus, voici. Il se trouve dans le syllabus à la page 83. C'est d'un autre exégète contemporain, Daniel Margera, que vous avez rencontré certainement dans le travail d'interprétation, et qui est un excellent exégète. Se prononcer, voici donc comment il dit, vous avez le texte à la page 83, se prononcer sur la relation entre Israël et l'Église, c'est toucher, qu'on le veuille ou non, un point névralgique de la théologie chrétienne. Là où il est parlé de naissance, de fraternité et de déchirement. Le rapport avec le judaïsme questionne invariablement le christianisme sur la rupture dont il est né. Nous sommes nés de la rupture, justement, du judaïsme en deux voies différentes d'interprétation à propos de Jésus de Nazareth. Et voici que le dialogue renoué depuis 25 ans entre juifs et chrétiens entraîne la révision d'un lot de certitudes. La réflexion chrétienne, fouettée par la mémoire de la Shoah, mais aussi la résurgence éruptive de l'antisémitisme occidental, conduisent à penser que l'hostilité envers le judaïsme n'est pas la résultante perverse d'une dérive de la tradition chrétienne. Le Nouveau Testament fourmille, en effet, de jugements négatifs portés sur les Juifs. Et c'est souvent ce qui reste dans notre théologie chrétienne. Comment alors le christianisme peut-il justifier devant l'histoire que soit inscrit à même ces textes fondateurs un déni porté sur la religion d'Israël? Il revient ici à des exégètes chrétiens, mais il y a aussi des exégètes juifs, d'examiner le dossier. L'identité chrétienne s'est fixée au premier siècle dans un débat conflictuel, engagé principalement avec la synagogue, précisément à cause de cette séparation. Comment, cas par cas, le déchirement s'est-il produit? Comment les premiers chrétiens l'ont-ils compris, interprété, justifié? Comment ont-ils rendu compte à la fois de leur héritage juif et de la rupture intervenue avec Israël, titulaire traditionnel de cet héritage? Voici quelques-unes des principales questions abordées par les auteurs de ce livre important à plus d'un titre. Ce livre important de Daniel Margera, c'est un livre qu'il intitule « Le déchirement ». Et je vous ai déjà dit que actuellement, on essaie vraiment de regarder de près ce qu'on appelle le déchirement ou la scission ou la rupture entre Israël et l'Église primitive, ou la première Église, disons. Parce que ce n'est pas aussi simple qu'on le marque généralement. Et que cette séparation ne s'est pas produite comme une rupture absolue, même si on y a ajouté la 12e bénédiction, qui est en fait une malédiction, du Shemoneh Esrei, de la grande prière juive, l'Amida, les 18 bénédictions, qui a été ajoutée contre les chrétiens et les sectateurs. Une bénédiction contre. Donc, il est bon de reviser précisément notre manière de parler, surtout. Et c'est pourquoi ceci est important sur le plan de la pastorale, parce que j'ai remarqué encore très très souvent dans nos églises, notamment lorsque on parlait de la passion, j'ai remarqué souvent des réalités qui sont tout à fait inexactes. C'est-à-dire, ce sont les méchants. Les méchants, c'est les autres. Alors que les méchants, c'est nous aussi. Et je voudrais reprendre justement dans cette annexe que je vous ai ajoutée quelques points qui sont importants. Mais, dans ce livre que je viens de vous citer, Le peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, nous montre d'une façon très concrète et en analysant tous les passages généralement controversés, de toutes les erreurs que nous sommes encore en train de donner en pâture à nos fidèles d'aujourd'hui. Je reprends maintenant, dans la première page de ces annexes, Jésus était considéré par ses contemporains comme pharisien, et il l'était. Ils étaient dans cette mouvance pharisienne. La mouvance pharisienne, quoi que nous en pensions, ce sont vraiment les personnes qui veulent profondément observer la Torah, parce qu'elle est parole de Dieu. Et l'étude de la Torah, comme j'ai essayé de vous le dire, ce n'est pas seulement une interprétation extérieure, c'est entrer dans la mouvance de cette Torah. Devenir des Torahs vivantes. Une Torah n'est pas une loi extérieure pour le juif. Une Torah est notre colonne vertébrale qui nous fait vivre. C'est une liberté. Le commandement est une liberté intérieure. Ça, c'est ce qui est dans la vérité du judaïsme, et qui est présente d'une manière encore plus particulière à travers tout le développement de la tradition juive, et notamment dans ce courant mystique dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est sans doute pour cela qu'il peut parler à leur sujet de la façon dont ils le faisaient eux-mêmes. Entre pharisiens, c'est-à-dire spirituels de l'époque, on ne se faisait pas de cadeaux. Et Jésus utilise le langage habituel que vous retrouvez dans le Talmud, par exemple, des pharisiens parlant entre eux. On essaie d'être vrai. Quand on s'appelle sépulcre blanchi, c'est une invitation à avancer et à se dépouiller de son hypocrisie. C'est sans doute pour cela qu'il peut parler à leur sujet de la façon dont ils le faisaient eux-mêmes, entre eux, comme en témoigne le Talmud. Les reproches que leur fait Jésus doivent être pris comme des révélations ou des invitations à consentir à un dépassement de certaines étroitesses. Et ces étroitesses ont perduré, bien sûr, et le font encore dans notre christianisme. Ce que Jésus éprouve en eux, ou du moins chez certains d'entre eux, c'est pas toute la clique, c'est un système religieux, une religion de l'effort, du devoir et du mérite. Bref, un volontarisme souvent exacerbé. Et ça, ce n'est pas religieux. C'est une manière de s'imposer, un retour à soi. Ce reproche vaut d'ailleurs tout autant pour les chrétiens. Et donc, ces textes ont encore leur valeur actuellement. À l'époque où écrivaient les évangélistes maintenant, Matthieu notamment, puisque Matthieu est le plus juif de tous les évangélistes, les Esséniens et les Sadducéens avaient tout à fait disparu. Et les pharisiens ont repris le flambeau de la foi d'Israël avec vigueur. Souvent, comme Shaoul, devenu Paul bien entendu, ils s'opposent aux chrétiens parce que ceux-ci apparaissent comme une secte dissidente dans le judaïsme. Et ceci, c'est écrit avec un C et pas avec un S, bien entendu. Voilà. Apparaissent comme une secte dissidente du judaïsme. Donc c'est comme ça que ça s'est apparu. Et donc cette secte dissidente ne s'est pas séparée tout d'un coup. Ça a pris certainement, disons, 80 ans, sinon un siècle. C'est dans ce contexte que l'on peut comprendre tel passage de Matthieu, comme par exemple ce chapitre par lequel je viens de commencer, le chapitre 23e. Il s'adresse aux chrétiens. Mais ceux qui se mettent dans la chair de Moïse, c'est ceux qui pensent avoir la vérité, que ce soit la vérité juive ou la vérité chrétienne. La vérité, nous ne l'avons pas, c'est elle qui nous atteint. Ils apparaissent alors comme faisant obstacle à l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Et nous verrons la fois prochaine, à la lumière du livre de Jean-Marie Lustiger, La promesse, ou bien celui de l'Alliance, que ça vaut vraiment pour les chrétiens. La différence qui apparaît à l'époque se manifeste par le choix entre une religion de la Torah, de la volonté de Dieu, attention, de la volonté de Dieu telle que nous l'imaginons, et qui n'est pas toujours la véritable volonté de Dieu, ou une religion de la personne, de l'attachement, de la configuration à Jésus, Fils de Dieu. Et ça, c'est toujours d'actualité. Et donc, nous devons le marquer lorsque nous faisons une homélie, par exemple, nous devons marquer précisément que ce qui est dit des scribes et des pharisiens de l'époque de Jésus est dit aux scribes et pharisiens qui sont chrétiens. Alors, je n'ai pas le temps de prendre toutes les conclusions que vous trouverez ici pour chacun des évangiles, comment chacun des évangiles, les quatre évangiles, comment chacun interprète un peu ces écritures juives et la manière de vivre du judaïsme. Et nous verrons que notre interprétation est trop souvent caricaturale. Au lieu de voir chaque fois le contexte et au lieu d'interpréter les choses de manière positive comme elles le sont dans l'Évangile, nous l'interprétons en accusant les autres, au lieu de tourner notre accusation sur nous-mêmes. Je prends alors dans cette page d'annexe, et c'est d'actualité puisque il y a le séminaire sur l'évangile de Jean, le terme « les juifs » dans l'évangile de Jean intervient 71 fois. Et donc, il convient chaque fois, à chaque lieu, de s'interroger sur la manière dont ce terme est utilisé dans chaque passage de manière plus ou moins différente. Vous avez deux termes dans l'évangile de Jean qui sont des termes élastiques et qui signifient, je dirais, toute une perception et toute une mentalité. C'est le terme « les Juifs » et le terme « le monde ». Ces deux termes ont toute une histoire. Les Juifs, l'expression « les Juifs » vient évidemment du judaïsme et de la manière dont l'ensemble de la communauté juive voit les choses. On a voulu souvent traduire judéen à la place de juif. C'est vrai, ce sont les juifs de Jérusalem qui avaient une perception souvent étroite, mais ce sont plutôt les autorités juives. Et ces autorités juives tenaient un peu le peuple en respect par leurs exigences extérieures. Mais le terme « les juifs » est extrêmement variable. Et justement, dans le document en question, vous avez, je crois que c'est une 25 ou 30 pages, où tous les textes de Saint Jean qui ont cette expression des Juifs sont analysés. Cette commission biblique pontificale est composée d'un certain nombre de meilleurs exégètes chrétiens. Et ils ont pris 2 ou 3 ans à rédiger ce volume ensemble. Et donc, il faut bien le consulter chaque fois que vous voyez que l'expression revient. Donc, dans l'évangile de Jean, je vous rappelle quelque chose d'important. En accord avec la longue tradition de l'Ancien Testament, je suis à la page 1 de l'annexe, il montre entre autres comment le cheminement de la foi passe à travers l'endurcissement du cœur. Ça ne vaut pas seulement pour les pharisiens, ça vaut pour tout un chacun. Il y a un endurcissement du cœur. Il y a des choses que nous ne voulons pas comprendre. Pour lui, c'est la confrontation avec Jésus qui opère un jugement. Attention, jugement n'est pas toujours condamnation. Jugement dans l'Évangile peut signifier condamnation. Mais jugement dans l'Évangile signifie discernement. Il y a chaque fois un discernement à opérer. Et ce discernement de nos situations spirituelles. C'est l'histoire de nos jugements ou de nos discernements que Saint Jean nous rapporte précisément avec toutes ces citations, ces 71 citations, et il faut faire rapprocher ces 71 citations des 71 membres du Sanhédrin. Le Sanhédrin était le tribunal spirituel et matériel du judaïsme, qui existe encore, mais d'une façon tout à fait particulière, dans des communautés juives aujourd'hui. 71, dont la majorité étaient les Sadducéens. Ça, ce sont les intégristes, les Sadducéens. Ceux qui prennent à la lettre les mitzvot, les commandements, alors que les pharisiens prennent les commandements toujours à travers une tradition. Mais cette tradition est parfois piégée parce qu'elle est étroite. Et c'est contre cette étroitesse que Jésus en a souvent. L'expression prend un sens typologique. Donc pas seulement historique, mais typologique. Et vous savez que dans chaque personnage qui intervient dans son évangile, il y a à chaque fois une typologie. C'est une manière de caractériser une venue vers Jésus, une manière de l'atteindre ou une manière de l'interpréter. Saint Jean nous présente le peuple d'Israël substantiellement plus favorable à Jésus que ses guides et ses chefs. Il faut distinguer cela aussi. Si ces derniers, les guides et les chefs, scribes et pharisiens, ne reconnaissaient pas en Jésus le Messie attendu, cela ne suffit pas pour donner une signification péjorative à l'expression « les Juifs ». Bien sûr qu'elle est parfois péjorative, mais n'oubliez pas, chapitre 4e, « le salut vient des Juifs ». Qui est important donc dans la discussion de Jésus avec la Samaritaine et puis avec les disciples qui reviennent. Rappelons-nous la situation des rapports entre juifs et chrétiens à la fin du 1er siècle. Vous voyez, les évangiles, et notamment Saint Jean, ne sont pas la vie de Jésus prise sur le vif. Ce sont des mémoires de l'action de Jésus, de ses rencontres, mais à travers déjà une méditation, un approfondissement de la communauté chrétienne. Et donc, ces évangiles ne nous disent pas textuellement ce que Jésus a vécu, mais ils nous disent comment nous pouvons réfléchir à partir de ce que Jésus nous dit à travers ces textes, de ces textes, sur notre manière de vivre. Vous voyez, alors, là, il y a une première erreur. Le terme « juif » connotait alors l'hostilité ressentie, fin du 1er siècle, par les chrétiens mis au banc du judaïsme par la synagogue. Gamaliel II, j'ai mis la 19e bénédiction, c'est la 12e en fait. Bon. En nommant « juif » les adversaires de Jésus, l'auteur prend le mot tel qu'il résonne dans l'Église de son époque. De plus, Jean utilise ce terme, comme bien d'autres dans son évangile, dans le sens typologique, c'est-à-dire une manière de penser et de vivre. Mais, bien sûr, enracinée dans l'histoire. C'est à partir de réalités d'histoire, bien sûr. Les chefs du peuple de Jérusalem et de Judée ont été de fait les principaux adversaires de Jésus. Mais attention aussi, quand on parle d'adversaire, il y a controverse et il y a adversaire. La controverse est essentielle dans le judaïsme. Il faut secouer les manières de comprendre les choses. Et donc, secouer où les adversaires de Jésus, par exemple, chapitre 7e et 8e de l'évangile de Jean, où les altercations sont parfois virulentes, ce sont des altercations, mais justement pour mieux comprendre en quoi consiste cette paternité sur laquelle s'appuie Jésus. Est-ce que nous sommes des fils d'Abraham, des fils de Moïse, ou bien des fils du Père? Est-ce que c'est exactement la même chose? Et là, on voit bien qu'il y a toute une réflexion johannique pour essayer de découvrir et de transmettre des réalités très importantes. Les chefs du peuple de Jérusalem et de Judée ont été, de fait, des principaux adversaires de Jésus. Ils deviennent dès lors des types des incrédules, c'est-à-dire des croyants en Dieu, qui ne peuvent ou qui ne veulent pas reconnaître la divinité de Jésus, mais qui appellent fils de Dieu tout croyant en Dieu. Ce modèle a été imité dans la suite par des personnes qui n'avaient aucun lien charnel avec le peuple d'Israël. Et quand ce sont les païens en masse qui sont entrés dans l'Église, à partir du 4e siècle surtout, ils ont pris les choses en se distinguant en prenant distance par rapport aux Juifs. Ainsi, en Jean 15, 18-21, les persécuteurs des disciples de Jésus, on parle bien sûr de chrétiens qui devront subir la persécution des Juifs, Jésus en parle, mais il en parle à travers les évangélistes qui écrivent 40, 30, 40, 50 ans après. Sont désignés comme étant du monde. Bon, le monde, c'est le païen, c'est l'homme, c'est la créature de Dieu, c'est le Fils de Dieu au sens strict. Le monde, c'est ce que Dieu crée. Mais ce monde est aussi opaque. Ce monde est aussi piégé. Et donc vous avez le juif qui devient chrétien qui est stigmatisé, caractérisé par le terme les juifs, et il y a le païen qui devient chrétien qui est stigmatisé ou caractérisé par le terme le monde. Et nous sommes souvent les uns et les autres. Et aussi une valeur de type, mais historiquement, leur enracinement est autre, car ils viennent des nations. Et ces deux termes ont toute une histoire. En fait, les conduites sont analogues et inspirées par la même ignorance de Dieu. Mais l'ignorance de Dieu, c'est quoi? C'est ce que nous devons vaincre constamment nous-mêmes dans notre vie. Nous ignorons Dieu tous les jours en le prenant à nous et en l'affublant de notre interprétation, de notre représentation. Nous ne sommes jamais arrivés au bout. Notre Dieu est le vrai Dieu, mais nous le percevons à travers nos images. Et nos images ne sont pas Dieu. Et c'est bien cela qui apparaît très profondément dans l'évangile de Jean. En exprimant par le terme juif le type de l'incrédulité, qui est aussi la nôtre, Jean interprète les événements de l'Église du 1er siècle en relecture des événements de la vie de Jésus. Cela n'a-t-il pas un sens pour nous aujourd'hui? De quelle manière sommes-nous fidèles à nos racines? Alors, je vous cite encore un passage de Léon Dufour. « Juif incrédule et disciple en marche vers la foi, juif incrédule et disciple en marche vers la foi, sont plus que des hommes du temps passé. Ils nous représentent, nous, acteurs, dans le drame de la foi au Christ qui se joue aujourd'hui. En chaque homme, il y a un croyant appelé à adhérer progressivement à la vérité et un incroyant qui refuse la lumière. Il y a les deux. Et donc il y a tout le temps ce discernement à laisser s'opérer par Jésus lui-même. Selon qu'il veut ou ne veut pas, que se dissipent en lui les ténèbres des œuvres mauvaises. Et je vous cite ce texte parce qu'il dit les choses de façon très condensée et avec une grande vérité. Alors je prends l'exemple de la passion de Jésus. Nous faisons le récit chaque année, d'abord tous les trois ans, d'un des synoptiques, et chaque fois de l'évangile de Jean. Et nous voyons que dans ces récits de la passion, qui sont d'ailleurs agencés, qui reprennent des choses parfois très différentes les unes des autres, y compris le temps que ça prend, la passion de Jésus, comment est-elle chez tous les quatre? Comment est-elle structurée? Elle se divise chaque fois en trois actes, dans chacun des évangiles, des quatre évangiles. La passion comprend le rejet par les disciples d'abord, les plus proches, les chrétiens. Et la communauté, la première communauté des chrétiens, telle qu'elle est manifestée de façon très caractéristique aussi par l'évangile de Jean, comprend des disciples qui ne comprennent pas, c'est-à-dire un traître, un renégat et 10 fuyards, 10 lâcheurs. Ça, c'est la première communauté de Jésus. Et c'est cette première communauté qui renie. Il ne faut jamais l'oublier. C'est l'Église toujours infidèle, en marche vers la fidélité, une fidélité à recevoir tous les jours. Puis, il y a le deuxième acte de la passion, celle qui se joue au grand jour, d'abord la nuit, puis le jour. La nuit, c'est l'interrogation par le peuple d'Israël, le Sanhédrin justement, le juge de la communauté. Il y avait des individus dans le premier acte, il y a maintenant toute une communauté qui ne le comprend pas et qui le rejette à partir des titres qu'on lui donne. Il s'est fait fils de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Détruisez ce temple, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc on l'accuse de blasphème. Blasphème, c'est se donner des attributs divins, les revendiquer pour soi. Et puis il y a le troisième acte qui se passe devant les nations, symbolisé par le pouvoir romain, hein, le pouvoir romain, et singulièrement par le personnage de Pilate. Qu'est-ce que cette passion veut dire en trois actes? Elle veut dire que nous sommes l'un et l'autre. Nous sommes à la fois ses proches, ses disciples de Jésus qui le renions. Nous sommes aussi, nous avons quelque chose à voir avec ces Juifs qui essayaient d'être fidèles à leur Torah et qui ne l'ont pas compris et qui l'ont condamné de blasphème. Et il y a l'humanité incroyante, disons, les païens, pour prendre le texte, le terme de l'Évangile, les païens ou les nations qui le refusent. C'est toute l'humanité qui est reprise. Et c'est bien pour cela que ces textes sont repris, ces textes de la Passion sont repris pendant la semaine de la Passion. Non pas seulement pour nous faire méditer sur les souffrances de Jésus aussi, mais pour nous faire méditer aussi sur la part que nous jouons, que nous avons joué, que nous jouons et que nous jouerons dans ce rejet de cette personne de Jésus. Alors je vous donne, justement, à propos de la passion de Jésus, plusieurs expressions qu'il faut bien comprendre. D'abord, le motif de blasphème, et on reprend constamment dans les dialogues, en tout cas entre juifs et chrétiens, constamment ces textes de la passion de Jésus pour essayer de bien les comprendre. Ce n'est pas si facile. On parle aussi dans l'institution de l'Eucharistie des deux manières, de deux formules qui ont été utilisées dans la première Église pour reprendre l'acte de Jésus, tel qu'il nous est donné dans les synoptiques, que nous appelons l'institution eucharistique. Vous avez donc la mise en parallèle de Matthieu et Marc, qui suivent ce qu'on appelle la tradition palestinienne, qui fait allusion au chapitre 24e de l'Exode, l'alliance du Sinaï. La nouvelle alliance, non, l'alliance du Sinaï, la véritable et unique alliance entre Dieu et l'humanité à travers le Sinaï, chapitre 24, donc la constitution de l'alliance. Hein, donc, c'est là-dessus que Matthieu et Marc situent les paroles de la consécration. Tandis que Luc et Paul, hein, dont vous avez le schéma dans 1 Corinthiens, chapitre 11e, cite ce qu'on appelle la tradition antiochienne, c'est-à-dire c'est Jérémie qui parle, qui est l'unique texte que nous avons dans l'Ancien Testament, qui parle d'ancienne alliance et de nouvelle alliance. Mais attention, la nouvelle alliance, ce n'est pas Jésus. La nouvelle alliance, c'est d'abord pour Jérémie le retour à Jérusalem. La nouvelle alliance commence dans l'ancien. Ce que Paul Beauchamp, notamment, analyse de façon extrêmement précise. La nouvelle alliance est déjà une réalité en marche dans le retour à Jérusalem, c'est-à-dire la résurrection du peuple. Nous n'avons jamais l'obligé, ne l'oublier. C'est l'unique et éternelle alliance de Dieu avec l'humanité, mais à travers l'action de Jésus. Vous avez alors cette condamnation pour blasphème, cette incompréhension. Le juif sait très bien qu'il est fils de Dieu. Le juif sait très bien que le roi, d'une manière particulière, est fils de Dieu. Il sait bien que l'homme est une présence divine. Et il sait très bien aussi que la parole de Dieu s'est faite chair dans le peuple d'Israël. Ça, c'est vraiment la tradition juive authentique. Mais ce qu'il réprouve, ce qu'il n'a pas compris, c'est que cette réalité qui est celle du peuple avec lequel Dieu a fait alliance au Sinaï, c'est que cela se concentre dans une personne particulière. À telle enseigne que cette personne particulière puisse se dire, sans jamais le revendiquer, parce que quand un titre, soit fils de Dieu, soit Messie, soit roi, quand ces titres lui sont attribués, Jésus souvent les renvoie. Tu le dis. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il y a dans ta compréhension. Tu as raison, mais ton interprétation est toujours limitée. Elle ne va pas jusqu'au bout. C'est ça qu'il veut dire. Et c'est pourquoi le seul titre que Jésus revendique, c'est « Fils de l'homme ». Fils de l'homme, c'est-à-dire vraiment homme, l'homme véritable, c'est celui dans lequel Dieu est présent. C'est ça l'homme, c'est vraiment la créature de Dieu qui en prend conscience et qui le vit. Et donc, ce terme de blasphème, c'est un terme d'incompréhension. Il s'est fait Dieu. Hein, c'est ce que saint Jean nous dit, mais tu blasphèmes parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Et Jésus rétorque, dans l'évangile de Jean aussi, mais est-ce que la loi, c'est-à-dire le psaume ici, ne dit pas « vous êtes des dieux » ? C'est une question de profondeur d'interprétation. Mais voilà, là, nous sommes le blasphème, la condamnation juive, c'est une condamnation religieuse. Il blasphème. Il s'est fait Dieu. C'est-à-dire, il accapare en quelque sorte ce qui est du chef du roi, d'abord. Le roi d'Israël est représentation de Dieu. C'est pour ça que le terme revient à la passion de Jésus. Il revendique pour lui-même d'être le Fils de Dieu. Ils ont compris, mais ils ne peuvent l'admettre. Et dans le livre du rabbin Neusner, que le pape Benoît XVI utilise dans son livre sur Jésus, il a repris le livre de Neusner, il dit, mais je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas comprendre ce Jésus qui accapare ce qui est de l'autorité du peuple. Et c'est ça la grande difficulté. Il y a alors ce passage étonnant de Matthieu 27, 25, qui vient dans la Passion, justement, et Matthieu reprend le cri du peuple, « Son sang sur nous et sur nos enfants. » Terrible. Texte souvent interprété comme une malédiction que les Juifs appellent sur eux-mêmes. C'est comme ça que ça a été très souvent interprété dans l'histoire de l'interprétation chrétienne, et sur laquelle on a fondé l'accusation de déicide. Réprobation par Dieu et par les hommes, auto-malédiction consciente et délibérée, ou prophétie d'événements à venir, ça, ce sont des interprétations possibles. différentes explications. Et cette discussion est reprise précisément hein, ici dedans, dans le volume dont je viens de vous parler. Il s'agit bien d'une prise en charge. Son sens sur nous veut dire « nous devenons responsables ». Mais responsables de quoi ? Ah. Une prise en charge typologique sans doute, mais pour Matthieu, elle doit avoir un sens positif. Et nous l'avons souvent interprété dans un sens négatif. Les Juifs à l'époque, comme tout le peuple chrétien au nom de toute l'humanité, demandent que le sang rédempteur de Jésus soit répandu en source de vie et de pardon. Ça, c'est l'intention de Matthieu. Et quand on lit de façon fondamentaliste, alors on devient les accusateurs du peuple juif. Et on ne comprend plus. Ce sont eux, c'est pas nous. Et on se disculpe volontiers de cette manière-là. Quatrième point, le rôle de Judas. Souvent considéré comme traître et réprouvé, précisément, à cause de Matthieu 26-24, il eût mieux valu qu'il ne fût pas né. Et j'ai souvent entendu dire, même par des prédicateurs, il n'y a qu'un seul, un seul personnage dont nous savons absolument qu'il est damné, c'est Judas. C'est pas ce que dit Matthieu, hein, attention. Pas ce que dit Matthieu. Et saint Augustin, entre autres, montre que Matthieu, justement, montre que Judas a fait une bonne confession. J'ai péché en livrant un sang innocent. Et il va se confesser au prêtre, et il rend l'argent. Donc il restitue l'argent à Malachie. Il le jette dans le temple parce que les prêtres ne veulent pas accepter cet argent. Sinon, ils le prennent quand même, puisqu'on leur a laissé sur le pavé, ils le prennent quand même pour acheter le champ de Raquel Dama, le champ du sang, pour l'ensevelissement, l'inhumation des étrangers. Mais j'ai péché, aveu, en livrant un sang innocent, et il rend l'argent Malachie. Bonne confession. Mais voilà, le sacrement de réconciliation n'est pas encore, comme disent certains pères de l'Église, n'est pas encore institué. Et donc il va se pendre. Désespérance. À quel arbre va-t-il se pendre ? Ben, à l'arbre de la croix, sapristi. C'est bien de ça qu'il s'agit, parce que Jésus est le seul capable de pardonner. Voilà comment les pères de l'Église voient les choses de façon positive. Souvent considéré comme traître et réprouvé à cause de Matthieu 26-24 et parallèle, or cette parole stigmatise une gravité. Ah, une gravité. Jésus utilise aussi cette expression. Si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on le jette à l'eau avec une pierre de moulin, hein, une grosse pierre de meule autour du cou. Est-ce que Jésus dit qu'il faut le condamner à ça ? Mais non. C'est une manière d'exprimer de façon vive une gravité. Le scandale est terrible. C'est une faute énorme, le scandale. C'est ça qu'il veut nous dire. Et ici, il eût mieux valu qu'il ne fût pas né. J'ai déjà entendu cette expression dite par une maman à sa petite fille ou à son petit garçon qui lui fait un tour pendant. « Vaudrait mieux que tu ne sois pas né. » Mais ça veut dire, il ne faut pas prendre les choses à la lettre. Ça veut dire, c'est quand même grave, tu sais ce que tu fais là. Donc, il ne prononce pas une damnation. D'ailleurs, chacun, avec un seul N seulement, peut se découvrir dans le traître l'un des douze. C'est pourquoi, dans le texte de la Passion, on marque constamment l'un des douze, Judas, l'un des douze. Et ils se demandaient entre eux, n'est-ce pas moi ? Ce qui veut bien dire, que chacun est aussi le traître. Et que nous avons à nous laisser pardonner de cette trahison. De plus, il y a la bouchée donnée à Judas, mais ce n'est pas en Jean 19, là il y a encore une erreur, c'est en 13, 26, 28, chez saint Jean. La bouchée à Judas, c'est une bouchée de réconciliation, mais qui n'est pas encore comprise par lui. Transformation de la trahison en geste de salut universel. Voilà ce que Jésus fait. Donner la bouchée à Judas, c'est transformer la trahison de Judas en salut universel. Pour Jean, c'est un passage extrêmement important. Enfin, derrière le personnage type, puisque chaque personnage de l'évangile est toujours typologique, saint Thomas, par exemple, ça c'est le rationaliste de la bande, qui veut toucher, qui veut savoir, qui veut ramener à lui, autrement dit, se dissimule peut-être la tribu de Judas, infidèle à sa mission de louange. C'est aussi une ouverture qui est souvent interprétée comme cela par les pères de l'Église. Les pères de l'Église, généralement, voyaient beaucoup plus clair que nous, parce qu'ils ne lisaient pas de façon fondamentaliste les évangiles. Alors, il y a... Mais ça, je crois que je ne pourrais pas épuiser certainement pas cela aujourd'hui, simplement je fais toucher. J'ai encore toute une page sur la loi et le mystère d'Israël qui a trait surtout au passage de saint Paul à ce sujet dans l'épître aux Galates et de façon tout à fait particulière dans les chapitres 9 à 11 de l'épître aux Romains. Dans le séminaire sur l'Épître aux Romains, on analyse très profondément ce passage, hein, chapitre 9 à 11, essentiel pour la manière dont Paul se situe et vis-à-vis du peuple juif qui sont ses frères, comme il le dit, et il voudrait pouvoir même se déclarer anathème pour que ses frères soient sauvés. Et il se découvre lui-même comme celui qui est présent comme le fidèle, reprenant tout Israël dans son geste. Et Luc a bien compris cela, puisque c'est précisément ce qui nous met en scène dans les Actes des Apôtres, et qu'on a souvent aussi mal interprété dans l'histoire de la tradition, sauf peut-être, mais il y a peu de commentaires des Actes des Apôtres dans la tradition patristique, mais les pères de l'Église généralement comprennent bien. Quand saint Paul dit « Puisque vous, les Juifs, vous n'allez pas jusqu'au bout, je me tourne vers les païens. » Alors, on a compris souvent, maintenant le Juif est terminé, objet de musée, et on se tourne vers les païens. Eux, ils comprendront. Mais c'est très mal comprendre aussi cette intervention de Paul. Paul se dit, j'ai été pris par le Seigneur de manière tout à fait particulière, mais ce rôle, je l'assume. Et je l'assume au nom de tout le peuple juif. Je le prends en charge. Tout juif est toujours responsable de toute la communauté d'Israël. Ça, c'est un grand principe du judaïsme. Là où il y a un juif, Israël entier est présent. Et donc, vous ne voulez pas aller jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement de la réalité de l'alliance qui vous est donnée, eh bien voilà, moi je vais jusqu'au bout, en votre nom, jusqu'à ce que tout Israël soit sauvé. Alors à ce moment-là, on comprendra. On comprendra quand la totalité des païens aura compris que le mystère de Jésus, c'est le mystère de l'humanité, à ce moment-là, tout Israël sera sauvé. Une interprétation difficile, mais qui est essentielle. Alors je vous donne l'essentiel aussi, l'importance de Paul, que Paul fait la loi, il n'accuse pas la loi, il dit beaucoup de choses de la loi, mais il dit il y a une manière d'interpréter la loi. De la loi, on fait ce qu'on veut. Et la manière habituelle d'observer la loi, ou bien c'est on la laisse tomber et on fait à sa guise, ou bien on veut l'appliquer jusque dans ses moindres détails et on fait à sa guise pareillement. Et c'est ça que Paul stigmatise chez les Juifs comme chez les chrétiens. C'est une interprétation de la loi qui ramène à soi. Et qui ramène à soi précisément à cause de ce principe que, dont nous sommes tous les adeptes, hein, c'est-à-dire de la sécurité, le principe sécuritaire. Je veux être sauvé, donc j'observe la loi. Mais non. La loi m'a été donnée comme une grâce. Il me donne en même temps de l'observer. C'est exactement le contraire. Donc je ne mérite rien, je reçois tout. Et ça, en très bref, bien sûr, c'est la théologie de Paul. Maintenant, je m'arrête. Oui, il est temps. Je vous souhaite une bonne fête de Noël. Et nous nous reverrons encore deux fois au mois de janvier pour nous demander... Mais entre juifs et chrétiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a qui m'ont déjà interrogé sur la manière de passer l'examen. Vous choisissez un point, ceux qui veulent passer l'examen, vous choisissez un point, vous le développez un peu, et, ou bien des questions que vous vous posez, et nous approfondirons un peu cette question. Merci.